de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en langue française diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les nouvelles de l'Indonésie et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et la rubrique musicale. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Erdogan annonce sa candidature à l'élection présidentielle turque de 2023, au pouvoir depuis 2003. L'Indonésie a signé un protocole d'accord sur la consultation politique avec la Bosnie-Herzégovine. L'Indonésie peut encore contrôler l'inflation, a déclaré le président Joko Widodo. Le gouvernement vise des exportations de 1 million de tonnes de CPO après la mise en œuvre de l'accélération. Selon Mahfud MD, la coopération interreligieuse construit une Indonésie pacifique. Le G20 encourage l'amélioration de l'infrastructure numérique, a déclaré la ministre Sri Mulyani. Chers amis, voici le journal en complet. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé qu'il se présenterait à la présidence lors de la prochaine élection présidentielle de 2023. Il a également rejeté les rumeurs d'élections accélérées dans le pays frappé par la crise économique. Rapporté par l'agence de presse AFP vendredi, c'est la première fois que Erdogan, au pouvoir depuis 2003, annonce officiellement sa candidature très attendue. Il est candidat à l'Alliance populaire. Le gouvernement indonésien a signé un protocole d'accord concernant les consultations politiques avec la Bosnie-Herzégovine qui devrait servir de base aux efforts visant à renforcer les relations entre les deux pays. Lors d'une conférence de presse tenue virtuellement vendredi, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que les relations des deux pays s'étaient bien passées. Retno Marsudi, qui a tenu une conférence de presse avec le ministre des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine, Bisera Turkovic, en visite en Indonésie, a déclaré que pour mettre en œuvre ce protocole d'accord, son parti a accepté de charger de hautes responsables de créer une feuille de route concrète et pratique qui comprend tous les piliers de coopération. Les deux pays ont également convenu d'explorer divers efforts afin d'encourager les relations commerciales et d'utiliser tout le potentiel existant via un accès élargi au marché. Pour l'Indonésie, elle étudie le soutien et la facilitation des produits en papier et d'huile végétale. Le président indonésien Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie était encore en mesure de contrôler l'inflation à un moment où un certain nombre d'autres pays ont connu des flambées des prix des biens et des services en raison de l'incertitude mondiale. Cela a été dit par le président Joko Widodo lors de la célébration du 50e anniversaire de l'Association des jeunes entrepreneurs indonésiens 2022 à Jakarta Convention Center vendredi. Le président a déclaré que non seulement un ou deux pays, mais maintenant l'inflation est devenue un flot pour tous les pays en raison de la hausse des prix des produits alimentaires et énergétiques déclenchée par l'incertitude mondiale. Il a de nouveau donné un exemple. Dans les pays développés comme les États-Unis, l'inflation est passée à 8,3% par rapport à la tendance habituelle de 1%. Tandis qu'en Indonésie, l'inflation a été enregistrée à 3,55% jusqu'en mai 2022. Sur la base des données de la Central Agence des Statistiques, et le président Joko Widodo a demandé à toutes les parties d'être sensibles à la crise. Ne pensez pas que les conditions sont normales pour que vous réduisiez votre vigilance. Le ministre coordinateur des Affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Panjaitan à Badung, Bali, a déclaré vendredi que le gouvernement cible la quantité d'huile de palme brute à exporter dans un proche avenir de moins d'un million de tonnes. Lors d'une conférence de presse sur le lieu de l'événement Business Meeting pour les producteurs de CPO et les entrepreneurs d'huile de cuisson en frac à Badung, Luhut a déclaré que l'objectif devrait être atteint après que le gouvernement a pris diverses mesures visant à accélérer les exportations de CPO. Luhut a déclaré que les mesures d'accélération prises par le gouvernement, entre autres d'appliquer le mécanisme de vidange ou vider les réservoirs pleins d'huile. Avec ce mécanisme de vidange, le gouvernement a un objectif d'un moins 1 million de tonnes de CPO à exporter dans un avenir proche. Le ministre coordinateur des Affaires politiques, juridiques et sécurité, Mahfud MD, a déclaré que la coopération interreligieuse en Indonésie, en créant la tolérance et la modération religieuse, pouvait construire une vie nationale positive et pacifique. Mahfud, dans une déclaration écrite à Jakarta, a déclaré vendredi que le développement de cette nation n'était pas seulement effectué par la communauté islamique, mais par d'autres communautés religieuses en Indonésie. C'est ce qui forme une vie positive et tolérante en Indonésie qui peut être appréciée ensemble jusqu'à maintenant. Mahfud a souligné que la culture des valeurs de tolérance religieuse et de modération qui a été réalisée grâce à la coopération entre les communautés religieuses en Indonésie était un élément important pour coller et maintenir l'unité de la nation. La ministre des Finances, Madame Sri Mulyani Indrawati, a déclaré que la présidence indonésienne du G20 encourageait des améliorations massives de l'infrastructure numérique au niveau mondial pour faciliter la transformation numérique. Mais il y a des défis afin d'améliorer l'infrastructure numérique. Sri Mulyani, dans une déclaration officielle à Jakarta vendredi, a déclaré qu'il existe plusieurs défis dans le développement de l'infrastructure numérique, tels que ceux liés aux programmes de financement public et privé, intégrés et innovants. L'un des efforts pour trouver des solutions à ces défis consiste à tenir une réunion du groupe de travail sur les infrastructures du G20. Qui fait partie du troisième groupe de travail sur les infrastructures. Cette réunion, qui s'est tenue sur une base hybride du 9 au 10 juin 2022 à Nusa Dua, Bali, a été suivie directement par plusieurs délégations de pays membres et d'organisations internationales. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de Banyuwangi, Java Oriental. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, Sandiaga Salahuddin Uno, et la Fondation Indonésienne Setara ont organisé une formation au batik à l'Internat Islamique Rudrotul Muta Alimin Banyuwangi Java Oriental lundi 6 juin. Selon une déclaration écrite reçue par Antara à Banyuwangi, l'activité de la formation au batik visait à améliorer la qualité de la communauté, ce qui excellait dans le batik. Après la formation au batik, un mentorat et une assistance dans le marketing seront fournis et l'octroi de licences de produits dans le but de stimuler l'économie de la communauté. Les nouvelles suivantes sont venues de Makassar, Sulawesi du Sud. Le Bureau de la culture et du tourisme du Sud de Sulawesi a mené une pré-évaluation de la zone du Géoparc de Maros Pangkep vers le patrimoine mondial de l'UNESCO 6 au 8 juin. Le chef du Bureau de la culture et du tourisme du Sud de Sulawesi, professeur Jufri Landi, a déclaré qu'en direct, l'évaluation par des évaluateurs de l'UNESCO aura lieu de 14 au 18 juin. L'évaluation sera effectuée par les Tchèques et les Danois en tant que représentants de l'UNESCO. Géoparc Maros Pangkep est l'un des zones stratégiques pour le développement du tourisme dans le sud de Sulawesi, notamment le tourisme de nature et d'aventure basé sur la richesse naturelle de biodiversité, la biodiversité et la diversité culturelle des normes internationales. Le tourisme karstique de Ramang-Ramang est l'une des attractions qui sont incorporées dans le Géoparc Maros Pangkep. Les dernières nouvelles sont venues de la région de Pesisir Barat, la province de Lampung. Le gouvernement de la région de Pesisir Barat, la province de Lampung, a déclaré que la préparation de la Ligue mondiale du surf, Crui Pro 2022, qui se tiendra du 11 au 18 juin, a atteint 90%. Le chef du bureau de communication et d'information de la région de Pesisir Barat, Suryadi, à Bandar Lampung, lundi 6 juin, a déclaré que le nombre de participants à la Ligue mondiale de surf Crui Pro 2022 a atteint 216 surfeurs de divers pays. L'ordre du jour de la Ligue mondiale de surf Crui Pro 2022, qui se tient une fois par an, est l'effort du gouvernement pour introduire le tourisme à Lampung, notamment sur la côte ouest. Chers amis, c'était les nouvelles de l'Indonésie. Chers amis de quatre coins du monde, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 11 juin 2010, la première Coupe du monde a eu lieu en Afrique. La Coupe du monde de la FIFA 2010 était la 19e Coupe du monde de la FIFA, le premier tournoi international de football organisé en Afrique du Sud. Pour la première fois, la Coupe du monde se déroule sur le continent africain. L'Afrique du Sud a été choisie comme l'hôte en mai 2004, battant le Maroc et l'Égypte lors d'un tirage au sort ouvert uniquement aux pays africains. La Coupe du Monde 2010 a impliqué 736 joueurs à représenter 32 équipes en compétition pour la trophée de la Coupe du Monde lors de matchs organisés dans 10 stades à travers l'Afrique du Sud. La Coupe du Monde 2010 a été remportée par l'équipe nationale espagnole. Le 11 juin 1955, tragédie de Mons. Le 11 juin 1955, un grand accident s'est produit pendant 24 heures sur le circuit de la Sarthe au Mans en France. Des débris massifs ont éclaboussé la foule, tuant 83 spectateurs. Le coureur français Pierre Bouillon, qui courait sous le nom de Pierre Levêque, est également décédé dans l'accident. L'accident le plus dévastateur de l'histoire du sport automobile a blessé environ 180 personnes. À la suite de la catastrophe, les gouvernements d'Allemagne, de France, de Suisse, d'Espagne, du Mexique et de plusieurs autres pays ont interdit la tenue de course automobile jusqu'à ce que la piste de course ait un niveau de sécurité plus élevé. Même la Suisse applique une interdiction de toutes les formes de sport automobile jusqu'en 2010. Le 11 juin 1962, le général de l'armée nationale Gatot Subroto a décédé. Le général Gatot Subroto est un héros national décédé le 11 juin 1962, né à Banyuwangi le 10 octobre 1909. Il a vécu à trois époques différentes. Il était membre de l'armée néerlandaise des Indes orientales, membre des défenseurs de la patrie pendant l'occupation japonaise, et a rejoint l'armée de sécurité du peuple, ou TKR, dans la période post-indépendance de l'Indonésie. Le sommet de la carrière de Gatot Subroto a été lorsqu'il a été nommé sous-chef d'état-major de l'armée en 1956. Il est également connu comme un leader qui se préoccupe beaucoup du développement des jeunes officiers. Selon lui, le développement des officiers peut se dérouler de manière optimale si les académies militaires de chaque force sont unies, à savoir l'armée, la marine et l'aviation. Grâce à ces idées, l'Académie des forces armées indonésiennes a finalement été créée en 1965. Gatot Subroto est décédé à l'âge de 55 ans le 11 juin 1962. Son dernier grade était lieutenant général. Pour ses grands services, le général Gatot Subroto a été nommé héros de l'indépendance nationale, qui a été renforcé par le décret du président de la République d'Indonésie, numéro 222 de 1962, en date du 18 juin 1962. Le nom général Gatot Subroto est populaire parce qu'il est utilisé pour le nom des routes protocolaires dans diverses villes d'Indonésie. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Jangan cepat
Suai tujuh ramek nu Voice of Indonesia de l'Indonesie pour le monde. Sura frekans de 3,25 kHz e sura sit web www.voanews.id e wasi la rubrik Monde Indonesie.
Voice of Indonesia.
Merci de kute la voix de l'Indonesie diffuse depuis Jakarta. Sersami wasi la rubrik Monde Indonesie. Intitulé, l'Indonesie encourage la communauté internationale à accroître la coopération dans le développement de l'économie créative. La crise pandémique mondiale encourage de nouvelles idées pour développer des secteurs alternatifs pour une reprise inclusive, entre autres par l'économie créative. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Mahendra Siregar, a souligné le rôle important du secteur de l'économie créative dans la reconstruction de l'économie touchée par la pandémie de COVID-19. Cela a été transmis par le vice-ministre des Affaires étrangères lors de l'ouverture de la réunion préparatoire hybride de la Conférence mondiale sur l'économie créative de 2022 à Indonesia Conference Exhibition, Tangerang, Banten. Mahendra Siregar a déclaré que conformément au succès de l'initiative indonésienne pour la mise en œuvre de l'année internationale de l'économie créative pour le développement durable 2021, l'Indonésie continue d'encourager la communauté internationale à accroître la coopération dans le développement de l'économie créative, notamment en améliorant l'accès à la finance, la sensibilisation aux droits de propriété intellectuelle et l'augmentation de la compétitivité. Comme c'était de Komlo.go.id, 52 ambassades étrangères à Jakarta, plus de 100 représentants de la République d'Indonésie à l'étranger, et diverses agences gouvernementales indonésiennes ont participé à la réunion préparatoire qui s'est déroulée de manière hybride. L'Indonésie accueillera à nouveau la 3e conférence mondiale sur l'économie créative à Bali du 5 au 7 octobre 2022. Après avoir organisé avec succès la première conférence mondiale sur l'économie créative en 2018 et soutenu l'organisation de la 2e conférence mondiale sur l'économie créative par les Émirats Arabes Unis en 2021. Le vice-ministre du Tourisme et de l'économie créative, Angela Tanusudibyo, a souligné la signification stratégique de l'économie créative pour l'inclusivité de la reprise économique mondiale, considérant que toutes les personnes d'origine différente peuvent en tirer les bénéfices économiques. À cette occasion, la vice-ministre du Tourisme et de l'économie créative a invité la participation de toutes les parties à la Conférence mondiale sur l'économie créative 2022. Divers orateurs ont également fait des présentations importantes, entre autres Tri Tariat, le directeur général de la coopération multilatérale du ministère des Affaires étrangères, Ekapa Pantafung, le secrétaire général adjoint de l'ASEAN pour la communauté socio-culturelle de l'ASEAN, et Muhammad Nel El Himam, adjoint de l'économie numérique et des produits créatifs, le ministre du Tourisme et de l'économie créative qui a exprimé le potentiel d'un secteur de l'économie créative inclusif pour combler les inégalités à l'avenir et comment la Conférence mondiale sur l'économie créative 2022 devient la bonne plateforme pour réaliser ce potentiel. La participation des pays partenaires et des organisations internationales se reflète également dans la présence de l'ambassadeur de Colombie à Jakarta, du directeur national de la Banque Asiatique de Développement, du directeur national du British Council, du président de l'Association indonésienne d'UJO, du représentant de l'ONUDI à Jakarta et d'autres personnes qui ont expliqué l'importance de politiques appropriées et mesurables pour accroître la résilience et l'ampleur du secteur de l'économie créative, notamment par investissement dans le développement des compétences, la création d'un écosystème propice avec la participation du secteur public et privé, le renforcement des données et le développement des infrastructures. Les idées principales de la réunion préparatoire sont devenues des contributions précieuses pour la préparation de la Conférence mondiale sur l'économie créative 2022, notamment pour réaliser l'approbation de la feuille de route de l'économie créative pour la prise mondiale, ainsi qu'une coopération concrète et tangible entre les différentes parties participant au WCCE 2022. L'Indonésie continuera à collaborer, ouverte aux suggestions et aux contributions, ainsi qu'à élaborer un plan concret pour se préparer à la Conférence mondiale sur l'économie créative 2022, ainsi qu'à faire du secteur de l'économie créative comme une composante importante dans les efforts de relance économique nationaux et mondiaux. Chers amis, c'était la rubrique « Mon Indonésie » de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
De Jakarta, voici la Voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Mudah saja bagimu, mudah saja.
Chers auditeurs, auditrices, dans le monde entier, maintenant, nous allons vous présenter Magazine Culturel. Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici Magazine Culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter Tegal Simbah Wonogiri. Dans le village de Tambak Merang, le district de Giri Marto, la région de Wonogiri, Java Central, il y a une nouvelle destination touristique qui combine le tourisme naturel et le tourisme artificiel. Le nom de la nouvelle tournée est également unique, à savoir Tegal Simbah. Elle est ouverte à la mi-mai 2022 et dispose de nombreuses installations, y compris un restaurant, une piscine et des spots photo. Pour se rendre à Tegal Simbah depuis le centre-ville de Wonogiri, il faut environ 30 jusqu'à 40 minutes en voiture. En arrivant à cet endroit touristique, l'air frais de la montagne vous accueille immédiatement. Son emplacement sur le plateau de Giri Marto, sur le versant sud de la Wu, rend l'air si frais dans cette région. Le paysage environnant est si beau, il y a des collines et des zones forestières verdoyantes. Cette visite est divisée en étages 3. Chaque étage a sa propre fonction et son utilisation. Le premier étage contient des manèges aquatiques ou waterboom avec deux piscines qui ont des profondeurs différentes. Une piscine pour les enfants, une autre piscine pour les ados. Au premier étage, il y a aussi un centre culinaire qui propose une variété de menus alimentaires, des boulets de viande de pak kumis, des aliments à base de poulet, différents types de boissons aromatisées sont également disponibles. Certains gazebos sont construits sur les berges face à la piscine waterboom et face à l'extérieur. Le deuxième étage a un certain nombre de longues tables à manger. Dans le coin sud, il y a une scène contenant des équipements musicaux qui fait directement face au waterboom. Au troisième étage, de longues tables sont à la disposition des visiteurs pour se détendre tout en profitant du magnifique panorama sur les montagnes du sud de Lavu. À l'étage le plus haut, les visiteurs peuvent prendre des selfies avec en arrière-plan les montagnes du sud de Lavu. Chers amis, c'était la rubrique Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite, COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdraging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sangat kencang saat ku melihatmu. Wahai elok parasmu, membuatku menjadi gemeteran saat ku memandangmu. Tapi ku takut
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'Indonésie en couleur. Intitulé Le tourisme halal indonésien remporte la deuxième place dans l'indice mondial des voyages musulmans 2002. L'Indonésie a remporté la deuxième place dans l'indice mondial des voyages musulmans 2002. Cette réussite montre l'énorme potentiel et la compétitivité du tourisme halal en Indonésie. Le fondateur et PDG de Crescent Trading et Halal Trip, Fazal Bahardin, lors du sommet mondial des voyages 2002, a déclaré que l'Indonésie était classée deuxième après l'année précédente à la quatrième place. Avec cette réalisation, l'Indonésie a surclassé l'Arabie Saoudite en troisième position, la Turquie en quatrième et les Émirats Arabes Unis en cinquième position, alors que la première position est la Malaisie. À la même occasion, Fazal Bahardin a remis le prix Personnalité de l'année du voyage halal de Crescent Trading et Halal Trip 2002 au ministre du Tourisme et de l'Économie Créative Sandiaga Uno. Le prix a été décerné à Sandiaga qui est considéré comme une force motrice dans le développement du tourisme halal en Indonésie. Sandiaga Uno, dans son discours au forum, a déclaré que le potentiel du tourisme halal en Indonésie et a exprimé sa gratitude pour le prix qu'il a reçu. Sandiaga a également expliqué que son parti avait établi une politique liée au tourisme halal. Cependant, il a souligné que le tourisme halal ne signifie pas islamisation des attractions touristiques, mais fournit des services supplémentaires liés aux installations, aux touristes, aux attractions et à l'accessibilité pour répondre aux expériences et aux besoins des touristes musulmans, tels que les services d'hébergement et de transport, la fourniture de nourriture halal, de forfaits touristiques halal et de financement halal. Il existe plusieurs destinations touristiques de premier plan telles que Aceh, l'ouest de Sumatra, l'ouest de Java, Lombok et le sud de Kalimantan. Selon Sandiaga, le potentiel du marché du tourisme halal est énorme. En 2019, les musulmans du monde entier ont dépensé un total de 2,02 billions de dollars américains pour l'alimentation, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, la mode, les voyages et les loisirs. Le marché musulman mondial devrait également atteindre 2,4 billions de dollars américains en 2024. Les plus grosses dépenses des touristes musulmans concernant les aliments et les boissons halal. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur.
Aku bertemu dirimu di dunia.
Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, écoutons d'abord une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Chers amis, voici la rubrique musicale. Dans cette édition, nous vous présentons une chanson de Kroncong intitulée Peindre le crépuscule, qui a été créée et chantée par Budi Doremi. Dans cette chanson, Budi Doremi raconte que la vie n'est pas aussi simple qu'on imagine. C'est pourquoi il a fait une chanson qui raconte l'histoire de quelqu'un qui veut accompagner les autres pour faire face à leurs moments difficiles. Budi veut révéler que ce monde a été créé avec des problèmes et des solutions. Dans ce dernier ouvrage, il raconte le désir d'une personne d'accompagner les difficultés ou les luttes de la vie qui vivent les autres. Budi s'imagine aussi qu'il parle à Dieu, qui lui a donné la force. Il imagine que Dieu essaie de lui dire que la condition actuelle est le moment où son serviteur s'est battu. Budi croit aussi que Dieu est un ami qui ne quitte jamais quelqu'un dans les moments difficiles. Bon, chers amis, écoutez maintenant une chanson intitulée « Peindre le crépuscule » chantée par Budi Doremi. Merci à tous et à bientôt.
Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang. Untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi jangan berhenti.
Chers auditeurs, c'était une chanson indonésienne, ainsi se termine notre mission pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.